Vous êtes française ou français et vous résidez à l'étranger? Les élections européennes arrivent à grands pas. Rendez-vous le dimanche 9 juin pour élire les représentants français au Parlement européen. Ou le samedi 8 juin si vous résidez sur le continent américain ou dans les Caraïbes. Bon vote!
La science CQFD, Natacha Triou.
On termine notre semaine spéciale quantique avec une pépite de la pop culture, inspirée par le mystère de la physique quantique, une série finalement assez atypique dans le genre de la SF, Code Quantum. Si vous êtes né après la chute du mur, il est possible que vous ne connaissiez pas cette série culte en 5 saisons et 96 épisodes. Cela fait pile 30 ans que M6 a fini de la diffuser. Code Quantum a marqué son époque, avec les aventures du scientifique Sam Beckett, oui, comme l'écrivain, qui teste le voyage temporel et qui s'y perd en passant dans la peau d'un personnage à un autre. Avec lui, on se promène dans l'histoire américaine, mais surtout dans sa mémoire visuelle collective. Oh bravo! Code Quantum, en attendant Sam Beckett. Pierre Brun, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes physicien, directeur de recherche au département de physique des particules du CEA et enseignant à l'école des mines de Paris. Avec nous en ligne également, Claire Cornillon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence à l'université de Nîmes. Vous vous intéressez notamment au récit, à la fiction et à la sérialité dans les séries TV. Et en duplex de Bordeaux, Patrick Marcel, bonjour.
Bonjour Natacha.
Vous êtes essayiste, traducteur, et vous avez écrit notamment en 95 Code Quantum, itinéraire d'un ange gardien. Merci à vous trois d'avoir accepté notre invitation, et merci à vous d'être là au rendez-vous devant votre poste, en direct ou à toute heure en podcast sur l'appli Radio France. Vous pouvez aussi nous suivre sur X, anciennement Twitter, sur notre fil à Science CQFD avec notre live tweet qui commence tout de suite, et vous pouvez aussi nous suivre sur YouTube. Alors quelle est l'originalité de la science-fiction de cette série? Sur quel fonctionnement narratif repose-t-elle? Et que nous disent les lois de la physique sur la possibilité de voyager dans le passé? Nous sommes ensemble jusqu'à 17h pour répondre à ces questions. On commence avec Albert Calavici, alias Al, le seul lien entre Sam Beckett et le temps présent, c'est l'épisode 1.
Ce que tu vois, c'est un hologramme neurologique. C'est une image que toi seul es capable de voir et d'entendre.
Une image créée par l'action subatomique des quarks de carbone qui influe sur mes neurones optiques et auditifs.
T'as mis dans le mille, là.
Mais comment je sais ça?
Ziggy a très justement mis au point divers scénarii. 5 au total.
Ziggy, une espèce de nabo qui a mauvaise haleine?
Non, ça c'est Bushi. C'est lui qui a programmé Ziggy. Ziggy est un ordinateur hybride.
Les ordinateurs hybrides et surtout les hologrammes neurologiques n'existent pas en 56.
C'est vrai, en théorie.
Mais on est en 56.
Pour toi sans doute, mais pas pour moi.
Et c'est quoi mon nom de famille?
Si tu t'en souviens pas, je peux pas te le dire.
Non, c'est important.
J'ai pas le droit de te le dire, ça vient même en tête de liste avec un double astérisque.
Pourquoi?
Ça, je peux pas non plus.
Alors qu'est-ce que vous avez le droit de me dire?
Pas grand-chose, sinon ce que tu sais déjà. Et que tu fais partie d'un programme scientifique pour remonter le temps qui a, pour ainsi dire, déraillé.
Pour ainsi dire, déraillé? Comment ça, dérailler?
Oui, mais tu es là, ce qui est une grande première, ça peut même te valoir le prix Nobel du voyage dans le temps, tu devrais être fier.
Et?
Nous éprouvons quelques difficultés d'ordre technique pour te récupérer.
Voilà ce projet Quantum qui consiste en un accélérateur temporel qui permet de voyager dans le temps. Pierre Brun, en tant que physicien, comment est-ce que vous avez regardé cette série?
Alors moi, je l'ai regardé déjà en étant enfant, donc
j'avais
pas encore mon regard de physicien, enfin celui que j'ai aujourd'hui. Ce que ça nous dit, c'est que la science-fiction, on en parle tous les jours au labo, en fait, dans les laboratoires de physique, ça sert à questionner les limites des modèles, ça sert à mettre sur la table des solutions que l'on a mis de côté et à les questionner. Et donc, quand on regarde ce genre de série, nous, avec notre regard de physicien, on se pose la question, où sont les paradoxes? Qu'est-ce qui est possible? Qu'est-ce qui est impossible? Qu'est-ce que le scénariste ou le réalisateur a choisi de mettre de côté pour le bien du récit? Et qu'est-ce qu'il a réussi à garder de la physique, de la cohérence? Voilà, on essaye de regarder toutes ces choses-là.
Patrick Marcel, votre regard à vous également sur cette série?
Pour moi, c'est une série de science-fiction, c'est certain, mais en même temps, ça n'est pas de la science-fiction parce que ce qui intéresse vraiment Don Belisario, le producteur et le principal moteur de la série, c'est d'avoir des histoires humaines. Et il aime bien cette idée de voyage dans le temps. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a absolument rien de scientifique. D'ailleurs, on ne sait pas grand-chose sur le fonctionnement de la machine elle-même. On parle d'accélérateur temporel en français. En anglais, c'est un accélérateur de saut quantique. Est-ce que l'expression saut quantique est employée dans son sens scientifique, ou est-ce que c'est juste une image, puisque Sam se déplace par bond d'une époque à l'autre? On ne sait pas. C'est un peu un prétexte. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment une volonté de faire de la science-fiction hardcore.
Oui, Claire Cornillon, la recette de Code Quantum, on a une base classique de la SF qui est le voyage dans le temps, mais finalement, c'est quand même une série plutôt atypique dans le genre.
Oui, alors c'est vrai que moi aussi je l'ai découverte en tant qu'enfant, donc ce qui m'a plu immédiatement dans cette série, c'est justement ce qui est peut-être atypique dans Code Quantum, c'est-à-dire le côté humain dont parlait Patrick Marcel. C'est vraiment une histoire d'amitié, notamment entre Sam Beckett et Al Kadavici, et c'est une histoire c'est vraiment une histoire d'empathie, de quelqu'un qui va aider des gens. C'est ça qui est au cœur du récit, et c'est ça, je pense, qui m'a séduit à l'époque, avant même de que je mette à théoriser le récit sériel bien plus tard dans ma carrière. Mais c'est vraiment une série qui est fondée sur les émotions, qui, je pense, c'est pour ça qu'elle a marqué autant son public. Mais elle le fait grâce à justement toute une série de procédés sériels et de construction du récit. Oui.
Pierre Brun, on peut aussi dire quelque chose déjà tout de suite sur le titre même de la série en anglais, Quantum Leap.
Alors Quantum Leap, ça veut dire saut quantique, et il y a plusieurs choses à dire. C'est une série qui, c'est une expression qui n'a pas exactement le même sens en anglais ou en français. En anglais, ça veut dire un saut très brutal, mais on associe souvent ça en anglais à un saut de taille importante. On parle de quantum leap en disant qu'on va faire une avancée importante. En fait, on entend surtout une avancée brutale dans le temps. Et ça évoque le processus de la mesure en physique quantique, qui va être quelque chose que l'on décrit de façon comme étant instantané. Si tant est qu'il puisse exister quelque chose d'instantané, c'est comme ça qu'on le décrit aujourd'hui. Et voilà, ce qui est amusant et qui fait écho à ce qui a été dit avant, c'est que le titre de la série a assez peu à voir avec son contenu. Il n'y a pas grand-chose de quantique dans Code Quantum en dehors du titre et de cette idée de saut. Ça va être plutôt, du point de vue du physicien, une réflexion sur le temps. Et donc le temps, c'est plutôt la relativité, les modèles d'espace-temps, et plus que la physique quantique elle-même. Après, on en parlera peut-être après. Il y a quelques interprétations de la série qui peuvent avoir un vague rapport avec la physique quantique, comme l'interprétation de la mesure par les mondes multiples ou ce genre de choses. On pourra peut-être revenir là-dessus.
Alors, on est tout de suite un peu déceptif, hein, y a pas trop de physique quantique dans Code Quantum, mais ça ne nous empêche pas de faire un peu de vulgarisation sur ces grandes notions scientifiques et physiques, et en effet, on y reviendra dans quelques instants. Mais d'abord, quelques mots, Patrick Marcel, sur la genèse. Parce que cette série donc a été pensée par Belisario, qui est né en 1935. C'est un producteur qui a marqué l'histoire de la télévision américaine. En 78, c'est un des producteurs de Battlestar Galactica, il écrit presque un tiers des épisodes. En 80, il co-crée Magnum. Patrick Marcel, comment lui est venue cette idée? Comment est née la série Code Quantum?
Apparemment, il avait envie de faire une série qu'on appelle Anthologie. Vous savez, c'est ces séries du genre La Quatrième Dimension ou Alfred Hitchcock Présente, où chaque épisode est une histoire différente. Le problème étant que les producteurs n'aiment pas beaucoup ce genre de série parce qu'il n'y a rien pour fidéliser le spectateur. Donc, il a cherché un lien et il a plus ou moins trouvé en lisant un livre de Jack Finney qui s'appelle Le voyage de Simon Morley, où le voyage dans le temps s'effectue par des moyens plus ou moins psychologiques. Enfin, on ne va pas rentrer dans les détails, mais... Et c'est ce qui lui a donné cette idée de saut dans le temps qui, en fait, n'ont pas besoin d'une machine à explorer le temps, comme c'est généralement le cas. On a juste un personnage qui saute. Pour la série elle-même, il y a eu pas mal de difficultés à la monter, parce que c'est arrivé à une période où la science-fiction n'était pas forcément tout à fait bien en cours. Il a fini par remporter le morceau en promettant que ça ne ressemblerait pas trop à la science-fiction, ce qui explique justement le caractère un peu hybride de la série. Ironiquement, comme la série n'a jamais vraiment très bien marché. Elle a marché raisonnablement, mais je crois que sa meilleure place dans les classements a été 41e, ce qui n'est pas formidable. Par contre, ce qui l'a sauvé, c'est que elle le plaisait beaucoup aux publicitaires parce qu'elle attirait un créneau de la population qui lui plaisait. Comme en France, on a eu la ménagère de moins de 50 ans. Là-bas, je ne sais plus ce que c'était exactement. Donc, ça l'a maintenue. Elle a plus ou moins vivoté. Elle a survécu à un changement de créneau qui était un peu mortel parce que elle était face à des séries beaucoup plus populaires. Mais heureusement, elle était magnétoscopée, donc ça l'a sauvée. Jusqu'à la 5e saison où, paradoxalement, les producteurs ont demandé à Donald Bellisario de faire plus de science-fiction et de violer un peu les codes de la série qui, jusque-là, n'avait pas vraiment rencontré de personnages célèbres. Les personnages sont des gens ordinaires. Et là, dans la dernière saison, on croise Marilyn Monroe, on croise Lee Harvey Oswald. Enfin bon, c'est un peu une tentative de rattrapage qui malheureusement n'a pas fonctionné. Et ça explique, je pense qu'on y reviendra, le dernier épisode qui était prévu pour être un cliffhanger de fin de saison, c'est-à-dire un suspense final. Et que Donald Bellisario a dû transformer en fin de la série, même si c'est une fin qui reste en suspens, parce que on l'a dit, non, finalement, il n'y aura pas de 6e saison.
Oui, Patrick Marcel, on reviendra en effet sur la fin de Compte Quantum à la fin de cette émission. Avant ça, Claire Cornillon, cette série a quand même marqué son époque. On peut replacer comment Code Quantum, du côté du format, marque une transition entre les années 80 et les années 90.
Oui, alors effectivement, c'est vrai que la fin des années 80, le début des années 90, c'est une période très intéressante à la télévision américaine parce que la forme narrative qui est celle, en fait, justement, de Code Quantum, à savoir des épisodes avec des intrigues bouclées, mais en même temps, un certain nombre d'éléments de continuité sur l'ensemble de la série, c'est une forme qui va vraiment devenir dominante à ce moment-là tout au long des années 90. Et donc, on le voit bien dans Code Quantum puisque ça va permettre une diversité de types d'épisodes. On va avoir des épisodes qui vont être plus humoristiques, d'autres plus tragiques. On va avoir des épisodes bien évidemment liés aux différentes époques, donc qui vont donner une ambiance différente, mais aussi des références différentes, le film noir, la science-fiction bien sûr, le film de guerre, etc. Donc ça, c'est permis par le fait que chaque épisode a une forme d'autonomie. Et en même temps, il y a un attachement qui se fait à progressivement en fait au personnage et à l'histoire parce que il y a des éléments de continuité. Bien sûr, le principe même de la série est que Sam Beckett essaye de rentrer chez lui, donc il y a bien un début d'une histoire et ça c'est censé mener à une fin, c'est-à-dire va-t-il rentrer chez lui ou pas. Et donc il y a une espèce de fin retardée comme ça à chacun des épisodes. Et en plus de ça, il y a cette question de la mémoire qu'on voyait bien dans le premier extrait que vous avez passé, où la question de se rappeler de sa propre vie va être vraiment centrale pour Sam Beckett dans la série, mais aussi pour nous, spectateurs et spectatrices, d'accumuler petit à petit un certain nombre d'informations sur le personnage et aussi sur le personnage de Hal, voilà, qui va lui aussi raconter petit à petit sa vie.
Alors, le voyage dans le temps n'est-il qu'un pur fantasme et ne sera-t-il jamais possible ? Qu'en dit la physique ? Allez, on continue de faire des sauts quantiques